Philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Joudard, le 30 mai 90.
Quelle différence entre jugement et discernement? Le jugement n'est-il pas le fruit du discernement? Et ce dernier, une sorte de raisonnement? C'est très curieux, ça serait intéressant de regarder l'étymologie du mot jugement en français, en latin, en grec. On saisirait des aspects divers d'une réalité complexe. La simplex apprehensio, l'appréhension simple et simple. Elle saisit, elle touche en saisissant l'acuité. Mais, alors là, les deux cours se rencontrent, hein, critique et philosophie du vivant. C'est bien parce que ça vous permet d'avoir deux visions différentes. C'est pas commode quelquefois de bien discerner les deux aspects. Ça se tient, c'est évident. Ici, je vois avant tout le point de vue de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un vivant spirituel? Tout vivant assimile. Il cherche sa nourriture et l'assimile. Et ce vivant particulier qui est l'homme est un vivant spirituel. Et dans le monde sensible, physique, il assimile ce qu'il peut assimiler. Il ne peut pas assimiler la matière. Il ne peut pas assimiler la quantité. Il assimile la forme. Je sais bien que la quantité a une forme. Ce serait une assimilation très particulière, l'assimilation de la quantité. C'est un peu lourd pour l'assimilation spirituelle. Il y a un régime à l'intelligence, bien sûr. L'intelligence assimile en premier lieu la qualité, la forme et les qualités propres. Elle assimile l'intelligible, simple, ce qu'on appelle l'acuité. C'est cet appétit de l'intelligence d'assimiler ce qui est assimilable. Tout dans la réalité physique n'est pas assimilable. Abstraction, de rejet. Oui, le vivant doit s'adapter au milieu dans lequel il est. Et il s'adapte dans la mesure même où il est vivant. La vitalité profonde a une capacité prodigieuse d'adaptation. Mais d'adaptation, comprenez bien dans quel sens, hein, pour vivre le plus parfaitement possible, pour prendre dans le milieu tout ce qui peut être assimilable. Or, mon intelligence, de fait, est liée au corps par l'intermédiaire des sens. C'est l'intelligence d'une âme, forme du corps. Au point de vue vitalité, c'est très très important parce qu'on a vu les degrés de vie précédemment, donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est à travers tout le monde sensible que l'intelligence va percer son chemin. Parce que le monde sensible est assez lourd quand même. Puis il est passionné. Puis il est plein d'imagination. Il est plein du passé. Je porte elle perce tout cela. La première percée au-delà du sensible, c'est l'assimilation. Oui, on pourrait dire ça du côté du vivant. C'est la première percée vitale. Au-delà du sensible. Vous savez, quand vous voyez du macadam, et puis il y a une petite fissure, et puis vous voyez une petite plante qui pousse. Ça me fait penser tout de suite à l'appréhension, ça. Il y a le gros macadam imaginatif. L'imagination, c'est la quantité. C'est très très long. Puis, on a accumulé d'autres choses. Plus on est vieux, plus on a accumulé. On a accumulé des couches successives. Et l'intelligence a toujours cette vitalité qu'elle est toujours à sa source. L'intelligence ne vieillit pas. Elle n'a pas d'âge, l'intelligence. Elle a un âge par le sensible, par l'imagination. Mon imagination a un âge. C'est pour ça que je peux faire l'archéologie de l'imagination. Et une philosophie qui fait l'archéologie, c'est parce que c'est une philosophie qui reste en l'imaginaire. Foucault. Procédé archéologique. L'intelligence ne peut pas avoir un procédé archéologique. Elle ne peut avoir qu'un procédé de source, tout de suite. Et elle dépasse tout de suite le sensible. Et sa percée du sensible a cette qualité d'être simple. Parce que c'est une vitalité prodigieuse, l'appréhension, pour assimiler dans les réalités sensibles que j'ai, que je porte en moi, par les images et dans les représentations, ce qui est intelligible. Qu'est-ce qu'il y a d'intelligible dans une image? L'intelligence, c'est ça tout de suite. Vous voyez? Comme un vivant, c'est immédiatement ce qui est capable dans le monde végétatif, ce qu'il peut assimiler et ce qui est un poison. Et si l'intelligence n'a plus cette vitalité, elle assimile du poison. C'est-à-dire qu'elle confond. Elle n'a plus la vitalité forte, suffisamment forte, pour discerner ce qui est assimilable. Mais elle fait ça naturellement. Le gagatisme, c'est ça. Alors, il y a des gagatismes précoces. Et il y a des cultures qui sont au niveau du gagatisme précoce et qui confondent complètement l'imagination et l'intelligence. Aristote avait averti ça. Alors, c'est beau de voir la naissance, vous voyez, point de vue de la philosophie du vivant, voir la naissance de l'intelligence. Elle naît, j'allais dire, avec ce sens qu'il faut mettre toute sa force, toute sa vitalité dans un sens pour saisir à travers l'image la détermination intelligible, la forme intelligible. Une forme qui n'est plus sensible, qui est intelligible. Et ça, je constate du fait même que mon intelligence assimile. Elle est vitale, elle assimile des formes intelligibles. Et assimiler des formes intelligibles simples, c'est l'appréhension. L'intelligence appréhende. Elle a une vitalité d'assimilation. C'est le propre de la vitalité. Ce qui est assimilable. Et elle rejette le reste. Elle laisse tomber. Quand elle n'a plus assez de vitalité, elle ne rejette plus rien. Il n'y a plus l'abstraction. Et alors il y a la confusion. Et ça peut aboutir à la mort. Il y a des empoisonnements au point de vue végétatif. Et les empoisonnements au point de vue végétatif est qu'on a absorbé quelque chose qu'on ne devait pas absorber. On a assimilé quelque chose qu'on n'avait pas assimilé. Si on était plus vital, on l'aurait rejeté. Et si on est malade, on assimile tout. Puis il y a des choses inassimilables. Tout. Empoisonnement. Et il y a des empoisonnements à l'intérieur. C'est extraordinaire. Alors comment expliquer ce procédé d'assimilation de l'intelligence que je constate? Je dis que l'intelligence est immanente, qu'elle assimile au-dedans d'elle-même, mais qu'en même temps, elle a la capacité de rejeter et d'illuminer ce qui est bon pour elle. Alors on posera l'intellect agent et l'intellect possible pour expliquer l'assimilation. Pour expliquer cette assimilation à ce niveau intelligible et universel. L'assimilation intentionnelle. Cette assimilation intentionnelle a un caractère propre. C'est une opération propre, caractéristique de l'intelligence, qui est naturelle. Mais qui est naturelle, mais qui, comme toute chose naturelle, peut très bien connaître des déficiences. Je ne dis pas qu'il y a des maladies de l'intelligence, mais on pourrait presque dire ça. En fonction du conditionnement. Pas en fonction de l'intelligence, mais en fonction du conditionnement. Et le conditionnement, c'est le passage de l'image à la forme intelligible, au concept. Et c'est dans ce passage qu'il peut y avoir des maladies provenant d'une intelligence qui n'a plus sa vitalité propre. Et c'est pas l'intelligence qui vieillit, mais c'est le conditionnement qui est trop fort. Mais c'est comme ça qu'on a des maladies de cœur, vous savez bien. Quand le conditionnement est trop puissant, alors le cœur ne peut plus. Il est empâté. Et alors là, c'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre, hein, en fonction de la culture. Une culture qui intensifie le point de vue imaginatif, au bout d'un certain temps, fait que l'intelligence ne peut plus. Vous voyez, c'est ce que Platon exprime par le point de vue de la caverne. C'est que dans une caverne, l'intelligence saisit autre chose que ce qu'elle saisit immédiatement. Ce qu'on saisit immédiatement, c'est des représentations. Il ne faut pas être très intelligent pour saisir les représentations, pour saisir les affiches. Il ne faut pas être très intelligent. Évidemment, c'est qu'il voit très astucieux. C'est des affiches admirables. Tout le génie actuel est dans les affiches. Et on voit bien, il y a des choses assez étonnantes. Des phrases bien, bien tapées. Quelquefois, c'est complètement idiot. Et puis le dessin, c'est de la représentation, ça. Et l'intelligence s'arrête à ça, parce qu'il y a tellement de représentations. Et dans la télévision, il y a tellement de représentations. Il n'y a plus que ça. Alors on reste là. On n'a plus le courage de s'appliquer à comprendre, à saisir plus loin. Et l'intelligence s'endort. L'intelligence s'appesantit à cause du contexte. Alors il n'y a plus cette vitalité. C'est une intelligence qui veut pénétrer. Quand je dis c'est naturel, mais il y a une application. Je veux comprendre. Je veux saisir. Je veux aller au-delà de la représentation. Ça, c'est l'application volontaire. Mais il ne faut pas croire que je suis intelligent en tournant les pouces. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut lutter pour être intelligent. Ça, c'est sûr. Autrement, on s'endort. Tempérant comme tout le monde, on descend le fleuve et là on monte à la source. Il faut avoir cette volonté. Et là, en tant que vivant, je sais qu'il faut cette application et que j'ai de la peine dans le monde d'aujourd'hui d'être intelligent. Parce que la propagande est telle qu'on n'a qu'à suivre, la représentation est telle qu'on n'a qu'à suivre. Il y a dans la saisie intellectuelle de l'appréhension quelque chose qui exprime la vitalité propre de l'intelligence, qui veut dépasser le sensible, la représentation, pour saisir l'aspect quantitatif des choses, c'est-à-dire leur signification universelle. Ensuite, je constate cette opération beaucoup plus parfaite, qui n'est plus ce qu'il y a de sympathique, mais analogue au premier amour. aux analogues dans l'intelligence. C'est que l'intelligence va pouvoir discerner et adhérer. Elle va pouvoir juger. Le jugement est une opération complexe et qui me permet de me reposer. Je ne me repose pas dans l'appréhension. Je suis. J'allais dire en élan vital. C'est un élan vital, l'appréhension. L'élan vital de Bergson, n'est-ce pas ? C'est un élan vital, l'appréhension. Et il y a ça dans l'appréhension. Peut-être qu'on devrait dire ça, l'élan vital de l'intelligence, qui ferait comprendre ce que c'est que l'appréhension. Ce qui ferait comprendre cette force dynamique extraordinaire de l'intelligence qui ne veut pas s'arrêter à la représentation.
C'est le requin qui dit veut manger le plus gros.
le loup qui va avaler tous les autres loups, et ainsi de suite. C'est la lutte, c'est la lutte. Et la lutte permet un certain affinement, un certain jugement. Alors, quelle est la note dominante du jugement à travers tous ces jugements? Jugement affectif. Je t'aime. C'est un jugement quand je dis je t'aime. Quand vous dites je t'aime, quelle est la note du jugement? C'est que vous portez vers la personne que vous aimez et vous ouvrez vos bras. Je t'aime. Je suis accueillant. Je t'aime. Et quand vous dites à quelqu'un « Oh, je t'aime pas !» Vous lui tournez le dos. Et le jugement affirmatif et négatif. L'accueil et je ferme les portes. Et quelquefois, je lance de la poix. J'ai de la haine contre toi. Je jette toutes les imbécilités que je peux inventer et tous les jugements les plus terribles que je peux dire. Et il y en a dans toutes les langues. Le père Ramirez disait qu'il n'aimait pas beaucoup Jacques Maritain. Le père Ramirez, espagnol, grand espagnol, disait qu'il faisait les recensions en latin parce qu'on injuriait mieux en latin qu'en espagnol. Et c'est vrai que le latin injurie très bien. Mieux que le grec. Quoique le grec aussi, mais quand même, mieux. Avec plus de précision. Le latin est une langue précise. Le grec est une langue plus poétique. Plus intuitive. Vous voyez, dans chaque langue, les jugements sont différents. Alors, c'est intéressant d'essayer de saisir qu'est-ce qui caractérise, voyez, l'appréhension, l'élan vital. Je crois que c'est ça qui caractérise l'appréhension. C'est la sortie de l'intelligence dans sa jeunesse, dans sa force, dans son élan d'amour, dans son élan intelligent. On veut percer le jugement. C'est la conscience que j'ai de me situer au-delà du monde sensible. Donc, dans le jugement, il y aura, je crois, en premier lieu, le discernement. La conscience va tout de suite aller vers le discernement. Krinein, discerner, en grec, c'est net. C'est le fait de discerner. Et vous voyez, dans l'affirmation et la négation, c'est le discernement qui domine. Ceci est, ceci n'est pas. C'est le gros discernement. Je t'aime, je te hais. Et quelquefois, on dit ça 5 minutes après. Alors, on s'y tient. Parce que l'affectivité passionnelle passe facilement dans deux extrêmes. Et on peut être sincère en disant je t'aime plus que n'importe qui. Je te hais plus que n'importe qui. Et on est sincère des deux côtés. Mais la sincérité qualifie le jugement affectif. C'est l'affectivité qui domine dans la sincérité. Et alors, le discernement est très particulier. Il y a un discernement, puis il y a une adhésion dans le jugement. Ceci est vrai. J'y adhère. Vous voyez, il y a une espèce de réduplication dans l'adhésion. C'est pas seulement le jugement. Mais il y a une possibilité de prendre conscience de tout ce qui est contenu dans le jugement et d'y adhérer. J'y adhère. Et en adhérant, je me repose. J'adhère à ce que je dis. Ceci est. C'est vrai. Et vous ajoutez « c'est vrai ». Vous ne dites rien de plus. Mais vous exprimez cette forte adhésion. C'est vrai, j'y adhère. C'est mon opinion. Et on y adhère. Il y a une espèce de réduplication dans le jugement. C'est ça la conscience. Alors je peux m'arrêter à cette réduplication. C'est pour ça que je peux m'arrêter à un jugement. Donc le jugement a des modalités très diverses. Je crois que les deux aspects particuliers du jugement, c'est discerner et adhérer. Il y aura d'autres modalités dans une conscience. d'intelligence, non. Il n'y a aucune saisie de la vérité. Il n'y a aucune adhésion de la vérité. Alors, c'est ça qui est intéressant à voir, vous voyez, c'est que le jugement, je veux dire, l'intelligence, dans son élan vital, connaît cette simplicité. Et l'intelligence, dans sa perfection, réfléchissant sur son activité propre, est capable d'atteindre la vérité et de dire ceci est vrai. C'est dans un jugement qu'elle dit ceci est vrai. Et dans un jugement réflexif, l'intelligence est capable de réfléchir sur elle-même. Et c'est le propre de l'activité du jugement. Elle réfléchit sur elle-même en disant ceci est vrai. Quand l'intelligence dit ceci est vrai, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle affirme que ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime, le fruit de son jugement, est conforme à la réalité. Ceci est vrai. Et quand l'intelligence dit « je t'aime et je t'affirme que c'est vrai », l'intelligence à ce moment-là veut montrer que son affection, son amour est conforme aux intentions profondes de sa volonté. Mais il y a des mesures différentes, et pour ça qu'il y a des vérités différentes. Quand vous dites à quelqu'un, du moins, quand vous jugez quelqu'un en disant « il a bien travaillé », vous qualifiez le travail de bien. Il a bien travaillé. Il a travaillé en vérité. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a bien travaillé. Ou bien, il a fait tout ce qu'il pouvait. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Parce que c'est peut-être un travail médiocre. Mais vous dites, il a fait tout ce qu'il pouvait. Ce gars de sauce, il ne pouvait pas faire plus. Alors, vous voyez, la mesure est différente. C'est ça qui est très curieux. L'intelligence se donne à elle-même les diverses mesures de son jugement et de la qualification de son jugement. Alors là, vous pouvez faire l'inventaire. C'est intéressant à faire, du reste. L'inventaire de tous les jugements et de toutes les manières de qualifier le jugement. Vous ne dites pas la même chose, voyez. Quand vous dites « Ah, il a été sincère dans ce qu'il a dit. Il a été vrai. Il a travaillé autant qu'il pouvait. » Je vous affirme, vous ne pouvez pas faire plus. Vous ne pouvez pas faire mieux. Alors, vous regardez ses capacités et vous jugez le travail en fonction de ses capacités. Et quand vous dites, ah, ce travail, merveilleux, on ne pouvait pas faire mieux. Vous regardez par rapport à une mesure extrinsèque à celui qui a travaillé. C'est très curieux comme l'intelligence est capable de se donner à elle-même une mesure. Et de reconnaître que la mesure de tous ces jugements, en définitive, c'est la réalité. Alors, vous voyez, le petit problème qui se pose, hein, qui est très intéressant, parce que c'est la question de l'appréhension et du jugement. Quand l'intelligence dit « ceci est vrai », c'est conforme à la réalité existante. Cette réalité existante, c'est par exemple Pierre. C'est toujours Pierre qui est la réalité existante. C'est Pierre. Et vous dites, Pierre est intelligent. Et je vous affirme que ceci est vrai. Donc vous pourrez dupliquer sur ce que vous dites. En disant ceci est vrai. Comment ceci est vrai. Et vous prenez à témoin tout ce que vous voulez. c'est parce que je suis capable de saisir la réalité existante que je peux confronter. Pierre est intelligent, ceci est vrai. S'il n'y avait pas le jugement d'existence, s'il n'y avait pas cette addition d'intelligence avec le réel, je ne pourrais pas dire ça. Donc, au-delà de toutes les informations, il y a la réalité que je touche dans un jugement d'existence. Autrement dit, l'intelligence est capable de dépasser l'assimilation. L'intelligence ne saisit pas que ce qu'elle assimile. L'intelligence est capable de toucher, d'atteindre quelque chose qui est au-delà de toute assimilation. Pierre existant, je ne peux pas l'assimiler. Je ne suis pas un bois. Je ne peux pas l'assimiler, je le respecte. Je le respecte comme une réalité qui est extérieure à moi et qui est, d'une certaine manière, plus que moi. Parce que toute réalité qui existe est antérieure à moi et plus que moi. Plus que ce que j'affirme d'elle. Plus que moi, dans ce sens-là. Plus que ce que j'affirme d'elle. Il y a toujours dans la réalité existante plus que ce que je dis d'elle. C'est pour ça qu'elle peut me servir de mesure par rapport à ce que j'affirme. Mais comment l'intelligence peut-elle saisir ce plus? Parce qu'elle est faite pour l'être. Jugement d'existence. C'est le jugement d'existence qui me permet d'expliquer comment je peux dire Pierre est intelligent, je vous affirme, c'est vrai. Et là, je saisis ce qui caractérise le jugement d'existence, c'est que j'adhère au réel. Adhérer au réel, ce n'est pas l'assimiler, c'est reconnaître qu'il existe et qu'il est la mesure de mon intelligence. Alors, je vois tout de suite deux choses très importantes dans ma vie intellectuelle. C'est que à la fois il y a l'assimilation, l'intelligence assimile, et elle assimile ce qui la détermine, ce qui la spécifie. Et là je découvre ce que c'est que l'objet propre. Et ce qui est capable d'être assimilé, ce qui l'a déterminé, ce qui est capable d'être. Donc l'intelligence a une vitalité propre d'assimiler en transformant tout dans le point de vue de la forme intentionnelle. C'est là le vécu d'intelligence. Tout ce que l'intelligence a assimilé, c'est le vécu. Mais l'intelligence a quelque chose de plus. Et même c'est ce qui la caractérise encore plus. L'intelligence est capable de s'affronter au réel. Est capable de reconnaître qu'elle n'est vraie que quand elle est conforme au réel. Alors, c'est le point de vue de l'adhésion. Elle adhère, confrontée. Elle se heurte à quelque chose qui est plus, qui est une mesure. L'intelligence comprend que la réalité existante et plus que ce qu'elle assimile. Et cette réalité existante peut mesurer ce qu'elle connaît. Oui, comment le jugement va permettre de comprendre, de saisir de l'intérieur que la vitalité de l'intelligence pas seulement assimiler l'objet, mais c'est de regarder la réalité comme mesure. Vous voyez, ça c'est la vitalité de l'intelligence. Et cette vitalité ne peut s'expliquer que parce que l'intelligence saisit ce qui est. Et dans ce qui est, elle saisit